pour comprendre un petit peu mieux dans l'apparition de notre identité au milieu du monde, notre identité au milieu de l'humanité, notre identité par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos parents, par rapport à la famille, par rapport à Dieu. On avait commencé à aborder un tout petit peu le premier moment de l'apprentissage de la loi. Je voudrais revenir dessus pour voir comment la paternité et la maternité qui est attentive à l'enfant fait naître en lui une structure intérieure, corps, âme et esprit, qui est ordonnée dans l'amour. La loi est une loi d'amour, c'est une loi qui jaillit de l'intérieur, elle ne jaillit pas de l'extérieur. Lorsque on a mal été éduqué, qu'on n'a pas été assez aimé, on perçoit la loi comme quelque chose d'extérieur et on rejette la loi. Du coup, on ne peut plus s'appuyer et on est insécurisé. Donc, c'est important de retrouver sous le visage de l'éducation de l'Église, de l'éducation des sacrements, de l'éducation de l'oraison, de l'éducation mariale, de l'éducation papale, l'éducation mystique aussi, et bon, retrouver cette loi extérieure, ce sens de la transgression. Donc reprenons un petit peu. Reprenons un petit peu. Il faut bien voir clair, notamment pour nous-mêmes, pas faire trop de gaffe. De toute façon, on en fait des gaffes, il ne faut pas s'inquiéter. Mais si on regarde tout ça, c'est évidemment pour essayer de reprendre ce que nous avons fait quand nous avons été père et mère il y a 30 ou 40 ans, si c'était il y a 30 ou 40 ans, pour le reprendre dans la prière et réengendrer, refaire par l'anamnèse et aussi avec Marie, refaire, réengendrer donc un complément de ce que nous n'avons pas réussi à faire à ce moment-là. Voyez. Et donc c'est bien, c'est très, très intéressant de regarder tous ces petits mécanismes qui ont l'air compliqués, mais que je vous le dis, de plus en plus, il faudrait arriver à voir à quel point c'est simple. Donc l'enfant doit faire l'expérience de la transgression. Dès lors que sa volonté, à l'âge de 2-3 ans à peu près, commence à s'exprimer en séparation, dans la phase de contre-dépendance, eh bien, il faut lui laisser cette distance. Il faut lui laisser cette distance. Et il doit faire l'expérience de la transgression. Il faut lui laisser faire l'expérience de la transgression. Une transgression à l'âge de 2-3 ans, ça ne peut pas être très grave, vous inquiétez pas, n'est-ce pas ? Ça va pas très loin. Mais, alors, voilà qu'est-ce qui se passe. Dites à l'enfant, bon, non, il ne faut pas que tu touches à la bougie, ça brûle, hein, n'est-ce pas ? Donc, ne touche pas à la chaudière, c'est trop chaud, tu vas être brûlé. Ne va pas dans la piscine, tu vas te noyer. Bon. Alors il y va quand même. Bon, on le laisse aller. C'est pas... On le laisse aller. C'est par amour que je lui ai dit ça. Faut pas que tu te fasses du mal. Faut pas que tu te brûles. Faut pas que tu tombes. C'est par amour. Mais lui, il a besoin. Il a besoin de passer d'une découverte de sa volonté propre dans la phase du nom à une découverte d'une intelligence propre. Est-ce que ce que papa m'a dit, maman m'a dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Donc si on lui dit ne fais pas ça, on lui impose une limite à ne pas franchir, il a besoin de la franchir. Parce qu'il a besoin de vérifier si ce que papa et maman lui ont dit, c'est par amour, c'est pour le protéger, ou bien si c'est pour qu'eux, ils soient tranquilles, que c'est par égoïsme. Évidemment, s'ils découvrent que c'est par pur égoïsme, son expérience de la loi plus tard. Hein. Mais si c'est par amour, alors à ce moment-là, il dépasse, vous voyez, il transgresse, il se brûle, il se fait mal. Ensuite, oh, tu vois, je t'avais dit qu'il fallait pas mettre ta main dans le feu, que c'est trop chaud. Et on le console. Il est pris en flagrant délit, il s'est fait mal, et évidemment, on ne va pas lui faire quelconque reproche parce qu'il a fait l'expérience de la transgression. C'est excellent. Il faut au contraire le consoler et le féliciter. Ah, tu vois, t'es grand, maintenant tu sais. Et on le console parce qu'en plus, il s'est fait mal. Et on le guérit et on le soigne. Et ça, c'est la première fois qu'on le voit en flagrant délit par rapport à une transgression. Et c'est à partir de l'âge de 2 ans et demi à peu près. Et peut-être que la première fois que vous le prenez en flagrant délit, c'est quand il a eu 8 ans, hein. N'est-ce pas? Voilà. Donc à partir de ce moment-là, cette loi qui lui était donnée de l'extérieur, finalement, quelque part, mais c'était tout intérieur à l'amour du père et de la mère pour lui, va s'intérioriser. Et va s'intérioriser la deuxième fois où il va transgresser, en face, vous voyez. Il y a eu ce flagrant délit, il y a eu cette rencontre de l'amour du père et de la mère. C'est vraiment une loi d'amour. Et si une autre fois il recommence, ah, attention, cette fois-ci, c'est ce que je vous disais, il n'est plus innocent. Dans la phase suivante, il n'est plus innocent. Il est la phase qu'on appelle, au niveau technique, hein, chez les médecins, on appelle ça la phase donc, d'indépendance, 4-5 ans. À ce moment-là, il n'est plus du tout innocent. Le moi jouisseur, possesseur dominateur, ah, spirituellement, il fait une faute. Hein, voyez. Alors à ce moment-là, la gestion donc est un petit peu différente. Ça veut dire qu'il faut commencer à dire attention, non, oui, c'est vrai, il y a des limites à ne pas franchir, mais donc il y a aussi une manifestation du désaccord. Et il y a une éducation qui commence. Vous comprenez bien qu'à partir du moment où cette loi intérieure le fait faire des actes de perversion par rapport à l'amour, par rapport à sa conscience d'amour, par rapport à sa conscience de raison, par rapport à sa conscience sensible, à partir de ce moment-là, on commence à sortir de cette espèce de magma de honte qui est en lui, qui est structuré par le sentiment de culpabilité, qui est entièrement donc structuré à l'âge de 3 ans. Tout le sentiment de culpabilité, toutes les sources d'agressivité, tout sentiment d'être mal, de ne pas être bien, d'être honteux. Je suis mal, je ne suis pas bien, je suis nul, hein, je suis zéro. Je suis, vous voyez, je suis. C'est pas j'ai fait quelque chose de mal, c'est je suis. Et cette confusion dans le sentiment de culpabilité entre l'acte, ce que je fais, et ce que je suis. C'est ça qui structure le sentiment de culpabilité et qui est lié à notre relation à la mère. On commence à sortir avec cette séparation qui implique et le cœur et l'expérience de la transgression, on commence à sortir. On a de plus en plus besoin du Père, et c'est là que va se construire la conscience de liberté spirituelle. Et on va préparer la confrontation avec la première épreuve, qui est plus tard à l'âge de 7 ans. La découverte de cette loi intérieure qui vient de Dieu et qui jaillit intérieurement de Dieu, et qui me donne mon nom, ce chemin d'amour dans lequel je veux tout de suite pénétrer toute ma vie. Vous voyez ? Comment est-ce que il faut faire pour essayer de limiter les dégâts du sentiment de culpabilité, ce sentiment de honte, ce sentiment d'être mal, d'être avec un petit enfant? Eh bien, il y a 3 points. Je vous rappelle, c'est centré sur la relation avec la mère, ce sentiment de culpabilité jusqu'à l'âge de 3 ans. 3 points. D'abord, c'est parce que on n'a pas ce sentiment de culpabilité est devenu un petit peu trop. Comment est-ce qu'on appelle ça? Hypertrophié, justement. Un peu hypertrophié, parce que l'enfant n'a pas reçu assez de tendresse de sa mère. Des baisers, des câlins, des caresses, rester 20 minutes dans les bras de sa maman. Des paroles, vous voyez, des regards, une présence, une proximité avec l'enfant, des signes d'affection. Donc le manque de tendresse paternelle aussi, hein, peut être bien sûr source. Hein, le père et la mère sont indissociables ici. Même si c'est la mère qui, quand même, garde, reste le centre. Alors, ça fait des gens, évidemment, qui, plus tard, manquent de tendresse avec leurs enfants aussi, hein, c'est sûr. Hein, ce que j'ai pas reçu, je peux pas le donner. Hein, on peut donner ce qu'on a reçu. Donc, il ne faut pas du tout, jamais, se permettre de juger les parents pour ça, hein, ces parents qu'on a pas reçus, on en a pas reçus. Mais on est jaloux. Il faut comprendre que si on n'a pas reçu beaucoup de tendresse, qu'on a un sentiment de culpabilité, de honte, eh ben on n'a pas envie. On n'est pas porté à avoir de la tendresse pour ses enfants, une proximité, et des câlins, ici et là. Alors qu'il en a besoin. Parce que lui, il compare tout le temps cet amour qu'il a reçu de Dieu et qu'il donne, et l'amour qu'il reçoit, il n'en reçoit pas. Alors du coup, il se dit, forcément, sentiment de culpabilité, mais je suis honteux, je suis mal, je suis pas aimable. Et c'est ça le sentiment de culpabilité, et ça reste jusqu'à la mort, ça. Enfin, sauf si on en guérit. Donc le premier point, donc dans retrouver, même dans la prière, vous voyez, se laisser câliner par Marie. Se laisser câliner par elle. Hein? Faire des rêves. Où on joue avec... Il faut accepter de retrouver cette... de redescendre dans ma blessure pour voir que non, pas du tout, ça c'est oui, se faire tendrement aimer, et c'est pour ça que c'est si important l'humanité glorifiée de Marie, l'humanité glorifiée de Jésus, qui sont notre père et notre mère finalement. Joseph aussi, sous un certain rapport, va aider énormément, on va se retrouver entre les trois. Il y a des gens qui ont beaucoup de mal à prier en se disant je me mets entre les bras de du Père de Jésus. Le visage de Joseph, l'époux de la mère, on a un mal fou hein, à se mettre dans les bras de Joseph. C'est bizarre. Marie, ça va. Hein, Marie, mais Joseph, qu'est-ce qu'on va se planquer dans les bras de Joseph pour se faire câliner hein? Voilà un truc, un fantasme bizarre. Non, c'est pas pour moi, ça. Vous comprenez que vécu extérieurement, au niveau... quand on regarde uniquement le point de vue de la dévotion, on dit, mais c'est ça, j'ai pas envie de ça du tout. Hein. Il faut repérer tous ces mécanismes de défense qui sont en nous. Ça m'indiffère complètement, Joseph. Mystiquement. Mystère de Joseph, mais alors ça m'indiffère, mais alors complètement. Devant Marie, il y a une angoisse. Le mécanisme de défense est moins fort. Parce que c'est pas beaucoup hein, qui ont été câlinés par leur père. C'est pour ça que c'est... Quand ils avaient 3 ans. Le deuxième point, jusqu'à cet âge-là, consiste à valoriser l'enfant. Il faut lui parler, même s'il ne comprend pas. Même quand il n'a pas le langage, même quand il n'a pas la compréhension du langage, il faut lui dire que c'est très bien, que tu es joli, que tu es mignon. Oh, ce que tu as fait! Il faut le valoriser distinctement, je dis bien distinctement, dans ce qu'il est. Oh, que c'est bien, oh, que tu es un peu, que tu es un enfant, que c'est... Et le prendre tout entier pour lui-même dans ce qu'il est et aussi dans ce qu'il fait. Oh, le gros popo, que c'est joli! Il a fait un gros popo. Dans ce qu'il fait, il faut le valoriser, lui dire bravo, je te félicite, je suis fier de toi. Et plus c'est différent, plus il faut le féliciter, plus il faut le valoriser. Tu diras jamais à ta petite fille qu'elle est jolie. Oh, qu'elle est jolie, cette petite fille. Oh, qu'elle est belle. Elle est belle. Eh ben, t'inquiète pas, elle deviendra coquette. Hein. Maladivement coquette. Hystériquement coquette. Elle va devenir vaniteuse. Et il faut dire... Et oui, parce que si votre petite fille, vous lui dites « Oh, que tu es jolie », le père, il dit déjà à 2, 3 ans, ou plus tard, 5, 6, 7 ans. Si tu lui dis pas, elle va soigner sa coquetterie, hein, t'inquiète pas, elle va la soigner, elle va travailler ça. Jusqu'à ce qu'elle soit reconnue dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle fait. Donc, voyez, c'est différent de signifier à quelqu'un bravo pour ce que tu es, je t'aime comme ça, et bravo pour ce que tu fais. Parce que ça permet à l'enfant, ben il a crié pendant toute la nuit, il nous a cassé les oreilles, ce gosse. Bon, aujourd'hui, il ne nous a pas cassé les oreilles. Oh, ça c'est bien, tu n'as pas pleuré, tu as été gentil, tu as joué. On le félicite pour ce qu'il fait. Et s'il a pleuré la veille, eh bien, on le félicite pour ce qu'il est. Et on lui dit, je t'aime, c'est bravo parce que tu es gentil, etc. On le félicite pas pour... On le dit pas, c'est pas bien que tu as crié. Mais on le félicite pour ce qu'il est. Et on le dit, même s'il n'a pas fait de philosophie, il comprend très bien, vous savez, la différence. Et petit à petit, du coup, il n'y a pas cette association en lui entre l'être, je suis, et puis ses actes. Et c'est ça, c'est cette confusion qui structure le sentiment de honte et de culpabilité qu'on traîne très longtemps, vous savez ça. Source d'agressivité, notamment. Bon, la troisième chose, c'est qu'il faut répondre aux besoins de l'enfant. Troisième point, jusqu'à l'âge de 3 ans, jusqu'à l'âge de 1 an, en tout cas, sachez que tout ce que demande l'enfant, c'est pas un caprice, ce n'est jamais un caprice. Jusqu'à l'âge de 1 an au moins, c'est toujours un besoin. Il faut toujours répondre à tous les besoins de l'enfant. On est père et on est mère, et on donne sa vie à ses enfants. On n'a pas des enfants pour être plus tranquille, pour être plus sympa, pour être mieux. Enfin, au moins, je m'éclate parce qu'au moins, je suis marié, j'ai des enfants. C'est pas comme avant. Plus tard, j'ai entendu, j'ai pas d'enfants, j'ai boule, j'avais la crise. J'étais en manque. Parce que j'ai des enfants, je suis plus en manque. C'est pour moi, vous comprenez ? Non, c'est pas pour moi, ces enfants. C'est pour eux. Je donne ma vie à mes enfants. Je leur donne la vie. C'est pas pour être tranquille. Alors, t'inquiète pas, si tu l'as pas compris, fais 1, 2, 3, 4, 5, tu vas comprendre que tu seras plus tranquille. Qu'il n'y a plus d'espace pour toi. Et en tout cas, si tu n'es pas décidé au départ, ne te marie pas, c'est pas la peine. Trouve une grotte. Tu donneras ta vie au monde minéral. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Tu sais, si on peut pas plus, c'est ça qu'il faut faire. Mais bon Dieu s'en sert, vous savez. Alors, on est. C'est ça. C'est... Mais qu'on est admirable. On se marie, on donne sa vie. On se donne, on se livre. Tout son temps est donné pour les autres. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça. Oh, mater admirabilis. Marie, oh, mater admirabilis. Joseph, oh, maternité, rien pour lui, il donne tout son temps. Alors, en tout cas, ça c'est bien. Le principe numéro 3, jusqu'à l'âge de 3 ans, répondre à tous les besoins de l'enfant. Donc, jusqu'à l'âge de 1 an, ça c'est quand même, c'est un principe très simple, un enfant ne peut pas inventer des caprices. Jusqu'à l'âge de 1 an, de 14 mois, quelque chose comme ça. Mais à partir du 15e mois, enfin un an, un peu plus d'un an, oui, il y a des petits caprices qui commencent à apparaître. Surtout s'il n'y a pas eu cette tendresse, surtout s'il n'y a pas eu cette valorisation, surtout si, vous voyez. Alors il y a des petits caprices, il y aura des manques, donc il va y avoir, donc il va falloir être vigilant, faire partir de l'âge de 2 ans justement, sur, à partir de l'âge d'un an et demi, quand est-ce que c'est un besoin, il faut y répondre, quand est-ce que c'est un caprice, eh bien, il faut en profiter quand c'est un caprice pour fortifier l'irascible, ce que je vous disais hier. En répondant aux besoins, vous alimentez le concupiscible pour qu'il soit dans l'ordonnance du désir d'être aimé, pour que le désir d'être aimé soit comblé, soit bien mis en place par rapport à Dieu, par rapport à l'homme, par rapport à lui, par rapport à son éternité et par rapport à son origine. Et lorsque vous repérez que c'est un caprice et que vous le faites attendre, hein, et que vous ne cédez pas, à moment-là, vous fortifiez son irascible, c'est-à-dire sa force après pour aimer, persévérer dans le don et être fidèle. Ah, c'est sûr que quelqu'un à qui on a fait tous les caprices, dès l'âge de 1 an et demi, il aura un mal fou à être fidèle. C'est évident. On se comprend tout de suite. Donc n'obéissez pas aux caprices des enfants, parce que sinon, à ce moment-là, vous ne faites pas naître en lui les vertus de force intérieure, de tempérance, d'adaptation, d'onction, de paix, ce qu'on appelle la prudence, et de justice. L'enfant va devenir injuste, il va devenir insupportable. Et du coup, sans cette espèce de force intérieure qu'on appelle la patience, la vertu de force. On ne connaît pas ce que c'est que la vertu de force, on dit. Ça se traduit ordinairement par patience, confiance, profonde patience, profonde confiance. Une confiance et une patience habitée. Pas une confiance et une patience vide. Une confiance très habitée par le désir. Alors, s'il n'y a pas cette force, s'il n'y a pas ces vertus de tempérance qui sont éduquées dès cette époque-là, alors c'est sûr, plus tard, à l'adolescence notamment, c'est sûr qu'il y aura une attitude plutôt d'indifférence. Les mécanismes de défense les plus forts, l'indifférence qui va se développer. Quand vous étiez au collège, vous avez déjà vu des camarades, des amis, dans la classe, il y en a toujours 2 ou 3. On appelait ça, à mon époque, on appelait ça les beaufistes. Ils disaient, bof. Oh, disons, mais c'est génial, mais c'est super. Oh, techno, c'est vraiment le bof. Bof. Je ne sais pas si maintenant ils disent bof, parce que c'était à mon époque, ça. Mais enfin, l'indifférence, je ne dirais rien du tout. Rien, ça n'a rien leur dit. Oh, le film! Oh, là, un canon! Bof. Bof. Bof, fils, indifférence. Indifférence, pas manque de sens. L'indifférence, c'est... l'amour n'est plus canalisé par la force intérieure, par le concupiscible, pas éduqué. Pardon, l'irascible, pas éduqué. Oui. C'est pour ça que c'est des moments très importants. L'indifférence signe une espèce de désespoir. Désespoir, c'est du côté de l'irascible. Ah, on doit être obligé de retrouver la vertu, cette fois-ci, d'espérance. D'espérance. Esprit de pauvreté pour se guérir là-dessus. Bon, si sur ces 3 règles, on est éveillé par rapport à son enfant intérieur, c'est-à-dire soi-même, parce que vous savez, quand vous êtes adulte, vous pouvez faire naître et éduquer votre enfant intérieur, vous-même, qui n'est pas encore né. Vous, à 3 ans, pas encore né. Vous pouvez faire naître en vous l'enfant intérieur. C'est bien parce qu'on est cassé que sous un seul rapport et on a des voies d'accès au réenfantement alors qui se multiplient. Hein? On peut être réenfanté par son époux, l'épouse. Enfanté par son époux, on peut être réenfanté par ses enfants, parce que l'enfant, lorsqu'il me renvoie à moi-même, l'enfant a 3 ans, il me renvoie à moi-même, et donc il me réenfante, il va falloir que je ne réagisse pas primo-primi, et que je fasse un acte d'amour, comment? En étant en présence du Père, du Verbe, de Marie, la sainteté absolue, l'amour éternel, la sainteté, pour dépasser, dialoguer, dire, exprimer, laisser, exprimer, découvrir ce que l'enfant vit et essayer de l'exprimer à sa place pour revivre avec lui. Et être soi-même réenfanté, et du coup permettre à l'enfant en même temps, simultanément, de vivre autrement que moi je l'ai vécu. Et pas être jaloux de l'enfant parce qu'il reçoit quelque chose que j'ai pas reçu, mais au contraire, recevoir en même temps que lui ce que Dieu nous donne. C'était des petites choses qui petit à petit faut s'habituer, et même quand on fait par exemple de l'accueil des gens qui sont désespérés, des gens qui sont détruits, des gens qui se sentent honteux, qui se sentent nuls. Il faut sentir toutes ces choses-là. On n'est pas à le savoir par cœur, mais il ne s'agit pas d'apprendre ça par cœur, mais c'est petit à petit soi-même de guérir pour pouvoir enfanter son frère, enfanter sa mère. Être enfanté par son frère, être enfanté par sa mère. C'est simultané, souvent. Alors, si on est attentif pour guérir ces blessures excessives, hypertrophiées, jusqu'à l'âge de 3 ans, alors l'enfant grandit. C'est plus facile pour lui d'avoir confiance dans la vie. La confiance dans la vie, c'est... Pourquoi ? Parce que jusqu'à l'âge de 3 ans, on est presque quand même très centré sur la mère. Vous savez, en Afrique, par exemple, les femmes, elles ne sèvrent... Le sevrage de la mamelle... ne se fait pas comme nous au troisième mois, au quatrième mois. Ils attendent l'âge de la contre-dépendance, 2 ans et demi. Pendant 2 ans et demi, l'enfant est à la mamelle. Magnifique, ça. Les Africaines sont très fortes pour ça. Alors, s'il y a le sevrage, il faut comprendre que la nature ne fonctionne plus très bien chez nous en Occident, mais ça fait rien, il faut remplacer par le biberon, très bien. Mais, rajouter au biberon l'équivalent de la mamelle, hein. Faut pas que le biberon. Ça, je vous signale comme ça au passage pour la future mère. Parce que la mère, c'est la vie, comprenez ? Donc, alors, si on passe, si le papa et la maman sont attentifs à ces 3 règles que je viens de vous dire, donc tendresse, à la valorisation de ce que l'enfant est, de ce qu'il fait, et puis, donc, réponse à ses besoins, et distinction entre les besoins et les caprices aussi, alors, à ce moment-là, il y aura cette confiance dans la vie, toute sa vie, il aura confiance dans la vie. Les gens n'ont pas du tout confiance dans la vie. Il y aura ça. Pourquoi ? Parce que la mère, c'est la vie. Il y aura la confiance en lui-même, bien entendu. Puisqu'il fera la distinction spontanément, depuis le départ, c'est comme ça, entre ce qu'il est et ce qu'il fait. Si tout ce qu'il fait ou ce qu'il a fait depuis 15 ans, c'est nul, c'est zéro, c'est des chutes, c'est pervers, c'est machin, eh bien, ça ne fait rien. Ce qu'il est, il est aimé. Ça, ça ne l'a jamais quitté, la confiance en lui-même. Il n'associera jamais pendant toute sa vie, il aura une bonne vie spirituelle, il ne sera pas enfermé dans son vécu psychique. Ah, je suis nul, ah, je ne suis pas bien, ah, je suis mal. Il ne sera pas enfermé dans un sentiment de culpabilité, sentiment de honte. Et donc, il aura confiance en lui-même et il aura bien sûr plus facilement confiance dans les autres. C'est ça l'avantage. Voilà. Bon, donc vous comprenez que si à partir de l'âge de 3 ans, il rentre dans cette phase de 3-4 ans qu'on disait, donc phase d'indépendance, 4-5 ans, pardon, puis la phase d'identification que nous avons vue tout à l'heure, entre 4 et 7 ans, et enfin la phase d'interdépendance, entre 7 et 10 ans, alors à ce moment-là, l'expérience de la loi va de plus en plus s'intérioriser. Vous voyez, on vit ensemble dans la famille. Donc c'est par amour qu'on veut quand même qu'il y ait la paix entre... Bon, on veut se donner mutuellement beaucoup d'amour, hein. C'est pour ça qu'il y a des qualités du cœur à respecter. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une force, une patience, une confiance, un amour mutuel, une présence, etc. Une prudence, hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a des limites à ne pas franchir. Et il y a aussi, donc, on n'abdique pas l'autorité non plus. Et en même temps, on ne réagit pas primo primi, donc avec une très grande, trop grande, hypertrophiée, châtiment, n'est-ce pas? Et si on le fait, eh bien, on dialogue, on demande pardon, on s'humilie, pour désangoisser l'enfant lorsque lui fera lui-même une transgression consciente et qu'il n'y ait aucune hésitation, lui-même à son tour, à demander pardon. Alors, à ce moment-là, si la loi extérieure ne mène pas à cette loi intérieure d'amour, il va y avoir rupture de dialogue. Et ça, vous le repérez, est-ce que dès que l'enfant est à ces âges-là, 6 ans, tout ça, eh bien, vous le savez, vous surprenez au moins une fois, dire, ah, il ne faut pas que papa le sache, il ne faut pas que maman le sache, tu ne le diras pas à papa et maman, tu ne le diras pas à... Hein? Rupture de dialogue, ça c'est le signe qu'effectivement il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. Et là, il faut dire, ah, dis donc, j'ai entendu ça, mais pourquoi? Il faut me le dire. C'est rien. Il faut redonner la confiance. Et si, effectivement, l'enfant ne se positionne plus par rapport à la loi, il risque donc de rentrer dans une réaction où il va, d'une part, faire ça en cachette, pire encore, s'écraser. Il va s'écraser. Il va choisir de ne plus choisir, il va choisir de ne plus être responsable, il va choisir de ne plus être libre de faire personnellement quelque chose. Il va choisir le ni oui ni non, il va rentrer dans l'immaturité, il va devenir le scotch. Il va se scotcher, c'est le collant, il va devenir collant. Ou alors il va devenir, c'est les deux réactions possibles, quand il n'y a pas la loi. Quand la loi s'est pas intériorisée à cause de cette confiance, cet amour, cette attention, vous voyez. Il faut arriver que cette loi s'intériorise, que l'enfant comprenne que c'est par amour qu'il y a ces exigences, ces petites exigences au départ. Et c'est le premier pas qui compte, hein, comme toujours. Et voilà. Alors à partir du moment où il y a cette immaturité-là, qu'on devient... c'est là que plus tard... C'est de là que s'origine, donc quand vous voyez des personnes comme ça, vous-même, du reste, quand vous êtes comme ça, si vous avez des restes de ça, plus tard, ça va se traduire, de manière un peu caricaturale, par des processus dits pulsionnels. Alors, la boulimie, par exemple. Vous mangez, vous buvez, mais alors jusqu'à gonfler, la boulimie, jusqu'à ne plus en pouvoir. La masturbation, c'est un processus pulsionnel. La kleptomanie. Tchoup, je prends. Et on s'en rend même pas compte, presque. À la limite. On se rend compte après, c'est ça le phénomène pulsionnel. Puis, on s'en rend compte, c'est déjà fait. C'est déjà enclenché, c'est trop tard. C'est déjà fait. C'est typique, ça, hein. Donc la deuxième étape consiste à rentrer dans la loi intérieure, elle s'intériorise, et pour qu'elle s'intériorise, je vous signale un truc que vous connaissez déjà, je pense, il faut que le père et la mère soient là, puisque vous sentez bien, c'est le passage de la mère au père, le sentiment de culpabilité à la conscience de culpabilité, de l'identité face au père et à la mère, et face à l'unité du père et de la mère. Donc c'est important qu'il fasse la découverte de son identité, qu'il se découvre aimé et de l'un et de l'autre. Deuxièmement. Troisièmement, qu'il fasse l'apprentissage de la loi et que la loi s'intériorise. Et comment cette loi va-t-elle s'intérioriser principalement? Ah, elle va s'intérioriser parce que le père et la mère vont s'entendre entre eux. Et s'il y en a un qui s'entend pas avec l'autre, l'autre s'entend avec l'un. C'est bon? Et pourquoi? Parce que dans la demande qui est faite, je te demande de finir ta soupe, il faut que tu finisses ta soupe. Ils vont s'entendre entre eux. Vous voyez? Et que si c'est une mère célibataire, c'est pas grave. La mère célibataire, elle s'entend avec le Seigneur, elle s'entend avec Saint-Joseph, elle s'entend avec Jésus, si vous voulez, par exemple. Ou elle s'entend avec son oncle. Elle s'entend avec ton oncle. Elle s'entend, enfin, elle se débrouille. Elle trouve un substitut. Elle se débrouille. On est deux à lui demander. On est deux. Et donc, il y en a un. Il y a un ordre qui est donné. On explique que c'est ça qu'il faut faire. On explique, tu vois, c'est, il faut que tu finisses ta soupe parce que c'est très, très important. Sinon, après, tu ne pourras pas dormir. Tu auras faim. Tu seras énervé. Et puis, il faut toujours finir ce qu'il y a dans son assiette. Sinon, c'est très mal. Bon, alors, par exemple, je ne sais rien, chez nous, à la maison, il fallait finir sa soupe. Alors, donc, et puis, les enfants n'aiment pas manger la soupe. Bon. Et nous, on n'aimait pas manger la soupe parce qu'on n'avait pas le droit de parler tant que la soupe n'était pas finie. Bon, alors, du coup, on n'aimait pas la soupe. C'est encore plus difficile. Mais en tout cas, donc, on explique, on donne un ordre. Il y en a un qui donne l'ordre, un des deux, le père et la mère. Et il y en a l'autre qui confirme l'ordre en disant, c'est maintenant que tu dois le faire. Distinguer l'ordre et puis l'impérium. Voilà. C'est maternel de dialoguer, d'expliquer qu'il ne faut pas faire ça. Tu vois, maintenant, c'est ça, il ne faut pas que tu fasses ça. Et c'est au père, souvent, c'est au conjoint de dire à un moment, bon. Alors maman dit, tu sais, il faut que tu, c'est bien, tu sais, c'est très bien, tu manges ta soupe, c'est très bien, mais il faut la finir complètement. C'est très très bien, c'est très important. Ton papa et ta maman, ils veulent vraiment, c'est très important, on le veut, c'est une exigence. Bon, l'enfant comprend ça, suspense, le père est là, n'est-ce pas? Il met un petit suspense, il montre bien qu'il ne prolonge pas, qu'il ne dit pas la même chose. Il dit, c'est maintenant, maintenant tu termines. C'est pas pareil. Bon. Alors, à ce moment-là, vous comprenez que c'est quelque chose de... Bon, on va laisser ça. Alors, à partir de là... L'enfant, donc, se spiritualise, on va se rendre compte qu'il fait quand même des actes qui sont vraiment mauvais, à certains moments, d'autres qui sont très bons, des actes pécamineux, vraiment, des fautes personnelles, des fautes de mauvaise volonté, des fautes de manque d'amour, parce qu'on peut toujours, même si on est rempli d'amour, faire des fautes contre l'amour. Et donc, là, à partir de l'âge donc de 4 ans, il faut repérer ça. Et il ne faut pas le rater, évidemment. Il ne faut pas lui dire, bon, il se débrouille, ça regarde lui, sa conscience, il faut être tolérant, déjà à cet âge-là. Bien. Non, non, il a besoin du regard de son père et de sa mère, il a besoin d'être enfanté. Il a besoin, il n'a pas encore reçu l'autonomie spirituelle, surnaturelle, religieuse, le don de la loi éternelle dans son cœur. Il n'a pas reçu encore sa vocation. Donc c'est normal qu'il y ait des transgressions et des fautes graves entre l'âge de 4 et 7 ans. Mais avant l'âge de 4 ans, alors à ce moment-là, il faut qu'il demande pardon, il faut qu'il sache dire, il faut qu'on dise, mais pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que tu as fait exactement? Pourquoi tu l'as fait? Eh bien, tu demandes pardon. Viens demander pardon en faisant un baiser à maman. Voilà. Tu demandes pardon à la prière du soir, Jésus. On demande pardon. Faut prendre... Alors, attention, avant l'âge de 4 ans, il est impossible qu'un enfant puisse trouver le point de vue du pardon. Parce que s'il faut repérer ça, faut pas exiger demande pardon alors que le petit gosse, il parle bien déjà à 3 ans. Mais il sait pas ce que c'est. Le pardon. Pourquoi? Parce que la conscience de culpabilité n'est pas encore assez formée, vous voyez. Alors c'est pour ça que, comme le pardon ne peut pas être découvert à l'âge de 4 ans, c'est trop nouveau, l'expérience du pardon, donc 4 ans. Voilà, la première expérience. On demande pardon, ou l'enfant peut demander pardon, et on voit qu'il est pardonné, et ça le fait grandir. 4 ans. C'est pour ça que si l'enfant, c'est l'âge important où il faut comprendre que dans le dialogue, si l'enfant dit qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien, il faut savoir lui faire dire, savoir lui recevoir cet aveu, savoir le féliciter pour cet aveu quelque part. Et surtout, évidemment, parce que l'aveu engendre immédiatement le pardon, une miséricorde immédiate. De 4 à 6 ans, c'est la miséricorde seule qui domine. La justice consiste simplement à essayer d'obtenir la lumière. Il a fait quelque chose, vous savez, il y a quelquefois, hein, les enfants de 4 à 6 ans, ils font des trucs. Hein. C'est effrayant. Il faut qu'ils sachent avouer. Voilà, la justice, c'est sur l'aveu. Et sur le reste, pas de punition. Très important. Parce que l'aveu seul est une punition terrible. L'aveu, avec, c'est par l'amour hein, qu'on engendre l'aveu. Et aussitôt l'aveu fait, c'est le pardon. De 4 à 6 ans. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce que du coup, on abuse de la miséricorde. Hein. Et donc, si on sanctionne l'aveu par une punition supplémentaire, alors à ce moment-là, on fait adulte au niveau de la puberté, au moment de l'entrée après l'adolescence, on fait de la puberté et l'âge adulte, on fait des gens scrupuleux, incapables de goûter la miséricorde de Dieu, des gens scrupuleux, méticuleux. Il faut toujours qu'ils en fassent plus. Vous savez ce que c'est que le scrupuleux ? C'est terrible, un scrupuleux. C'est peut-être les gens les plus malheureux du monde, les scrupuleux. C'est extraordinaire. Je sais pas, j'ai dans la tête quelques figures. C'est impressionnant, quelqu'un qui est scrupuleux. C'est une maladie. Hein. C'est grave, un hein, scrupuleux. Mais qu'est-ce qu'on est malheureux, ça, on n'arrive pas à s'en guérir. Hein. Si on devrait pouvoir s'en guérir, si on vivait uniquement de la miséricorde. Et pour ça, vous voyez, la grâce de Thérèse de Lisieux, c'est une grâce d'enfance de 3 à 7 ans. C'est la miséricorde. Uniquement la miséricorde. Que la miséricorde. Et il n'y a pas que cette période de notre vie qui a besoin d'être réengendrée. Donc, Saint-Thérèse de Jésus, c'est très bien, mais il y a toutes les autres grâces de la sainteté. Hein. Vous voyez ? Donc, le scrupule. Le perfectionnisme. Un perfectionniste pour être aimé. Si je ne suis pas absolument parfait, voyez, moralement, si je ne suis pas sans reproche, on ne m'aimera pas. Si je ne suis pas irréprochable, c'est terrible d'être scrupuleux, parce qu'on ne peut jamais être irréprochable. Ça en est tellement tendu que du coup, on tombe dans des colères, dans des pulsions, si, les pulsions qui sont en reste, de temps en temps. Alors du coup, c'est le légalisme, vous savez, l'observationnisme, le c'est ça. Ça, alors, ça c'est atypique, hein. Si votre femme, elle est comme ça, alors il faut essayer de trouver des photos quand elle avait 4, 5, 6 ans. Il faut les mettre en grand poster dans la chambre. En poster de votre femme quand elle a 4 ou 6 ans. C'est merveilleux, ça. Votre femme, c'est scrupuleuse. Hein. Alors, c'est le remords, du coup. Parce que comme on n'est pas irréprochable, le remords est rongé par Judas. Le remords, on est plongé. Vous voyez, l'obsession. Tandis que si on retourne dans les bras de papa, dans les bras de maman, et que voit qu'on est pardonné, qu'on est aimé, même à travers ce qu'on a fait, encore plus aimé de mal, alors à ce moment-là, on redissocie le point de vue de l'être que je suis, et puis des petits actes idiots que j'ai fait. C'est rien du tout. Vous savez, entre les péchés, les confesseurs, ils savent ça, hein. C'est l'avantage des confesseurs. Ça a déjà un avantage sur vous énorme.
C'est vrai. Parce que, s'ils confessent beaucoup, je sais bien que les prêtres, il y en a quelques-uns qui ne confessent plus, mais c'est dommage, parce que, c'est dommage d'abord parce que, bon, c'est pour beaucoup de raisons, c'est peut-être dommage. Mais déjà, vous savez, entre un saint, quelqu'un qui est vraiment un saint, hein, qui a reçu grâce sur grâce, qui est vraiment rayonnant d'union avec Dieu, qui a un moine merveilleux, une religieuse, une carmélite rayonnante, etc. Entre le péché d'un saint et celui d'un énorme brigand, d'un vicieux, etc. Vous savez, la différence est très, très, très minime. Très minime. Et aux yeux de Dieu, aucune différence. Aucune. Si on dissocie ce qu'on est, et puis l'amour, c'est-à-dire ses actes, ce qu'on est, on est totalement aimé, et puis les petits actes, mais c'était de l'amour, vous savez. Et hop, dans les bras de Dieu, ce petit acte d'amour partiel, qui était une faute, devient un amour total, puis c'est tout. Alors à ce moment-là, voilà, si on refait l'expérience du fils prodigue, du retour dans les bras du père, puis dans les bras de son... Hein, voyez ? Vous pouvez aussi, encore un autre truc, vous voyez ? C'est un truc de psychologue, ça. Vous avez un problème par rapport à cette période de 4 à 7 ans. Ben, prenez des photos de papa, de maman, à l'âge que vous aviez à 4-7 ans. Oh, c'est la gueule qu'ils avaient, je m'en rappelais plus du tout. Tu parles, c'était évacué. Hein. Et puis vous vous rendez compte qu'en priant, en les regardant, en les admirant, c'est admirable. Mais vous avez quand même quelque chose pour eux. Hein. Vous avez envie, on peut leur parler. L'imagination, vous voyez, ce passage de l'imaginaire, grâce à l'amour, à l'imagination, pour retrouver la réalité de sa blessure et parler. Vous voyez, ce n'est plus psy, ça devient plus réaliste déjà, vous voyez, se servir de l'imagination pour sortir de l'imaginaire et faire sauter un mensonge. C'est par le mensonge que l'imaginaire s'était transformé, l'imagination s'était transformée en imaginaire et que du coup on a oublié. Hein? Petit à petit, il faut trouver plein de petits trucs comme ça. La dernière étape concernant l'apprentissage de la loi, c'est le discernement de la gravité de la faute. Il y avait une faute, c'est un point, mais jusqu'à l'âge de 6 ans, je ne suis pas capable de voir le degré de gravité. C'est pour ça que quelquefois c'est énorme. Et les parents, ils sont hyper inquiets. À 6 ans, tu te rends compte de ce qu'il a fait? À 6 ans, déjà. Mais l'enfant, il ne discerne pas le degré de gravité. C'est à partir, justement, vers 6 ans, qu'on commence à voir le système de la gravité. C'est pour ça que, vous voyez, bien sûr, il est pardonné. Il a avoué, il a pardonné. Et puis, vous vous rendez compte, de toute façon, hein, c'est comme disait ma petite sœur, ma sœur Mamourine, c'est trop tard, je l'ai dit, elle disait... C'est si vrai, parce qu'on apprenait à aller à la confession déjà à l'âge de 4-5 ans, 5 ans déjà. C'est vrai, à mon époque, on apprenait aux enfants à aller déjà se confesser, ce qui est très bien, c'est très bien. Et alors, à l'âge de 7 ans, je me rappellerai toujours ma Maureen qui disait « Oh, mais c'est génial, de toute façon, on peut continuer à le faire, puisque de toute façon, on se confesse. Hein. » On est pardonné, pas de problème. Donc, on y va. Elle était super, ma Maureen. On peut être sur l'arigot, vous voyez. Si, alors les parents, ils repèrent ça. Quand c'est qu'il y a un abus de la miséricorde. Ah, on abuse parce que de toute façon, on est pardonné. Papa, de toute façon, on lui dit, il nous pardonne, donc. Quand j'avais 6 ans, justement, papa avait acheté, avec toutes ses économies, une traction avant. C'était fantastique, ça. C'est une traction avant, ça. C'était familial, c'est pas familial. Alors, il y avait 9 places dans la traction avant. C'est vraiment merveilleux, quoi. Bon. Attention, hein. touches pas, tu on va à la maison, tu restes dans la voiture, tu bouges pas. Hein. Tu bouges pas. Il y avait la petite jeune fille au père qui était censée me surveiller, n'est-ce pas? Donc j'étais protégé. Puisque j'étais protégé, je pouvais y aller, n'est-ce pas? Alors je suis allé sur le siège avant. Et puis la voiture, elle était sur la pente comme ça. J'étais au volant, j'ai enlevé le frein à main, la voiture. J'étais là, tiens, tiens, la pauvre fille au père. Vite, elle a ouvert la porte, elle a sauté de la voiture. La traction avant s'est retrouvée. Bon. Mais j'ai pas été blessé. C'est que la voiture. Vous comprenez? Vous comprenez que ça exige réparation. À partir de un peu après 5 ans et demi, 6 ans, l'aveu, oui. De toute façon, c'est flagrant délit. D'accord. D'accord, bon. Bon, on t'embrasse quand même, hein. Mais on casse ta tirelire. Tu répares. Bon, j'ai réparé. C'était une petite participation. Mais pour moi, c'était toutes mes économies. Et donc, il y a une réparation. C'est le moment pour éviter qu'il y ait abus de l'amour, abus de la miséricorde. Eh bien, il est temps d'exiger une réparation à partir de l'âge de 6 ans. Pour mieux percevoir, non pas que je suis aimé, mais pour mieux être, percevoir, avoir un plus grand discernement, non pas sur l'amour qui m'est donné à moi parce que j'existe, parce que je suis moi-même, parce que etc., mais un plus grand discernement sur les actes que je pose, et que j'ai de plus en plus l'amour du discernement, de la lumière, de la vérité sur les actes. Et à ce moment-là, j'ai un sens de la gravité. Mon sens éthique va commencer à naître, mon sens moral, mon sens relationnel d'amour, ma responsabilité dans l'ordre de l'amour. Alors, c'est pour ça. Donc, la clé hein, de tout ça, voilà pour la loi, l'apprentissage de la loi. Donc, nous en étions à cet âge-là de 6 ans. On avait vu la phase d'identification où on regarde si on peut s'identifier à son père ou sa mère, aux parents du même sexe. Et du coup, si cette phase-là d'indépendance et cette phase d'identification va amener l'enfant à une phase d'indépendance. Alors, au lieu d'être dans cette indépendance dans laquelle on veut rentrer en jouant tout seul, en laissant papa, etc., en trouvant des substituts de jumeaux qu'on n'a pas eu, triplés, on joue, etc., eh bien, on commence à rentrer, donc, à cet âge-là, dans une phase de 7 à 10 ans d'interdépendance. Pourquoi? Parce que, entre les deux, s'il y a vraiment une éducation du cœur, entre les deux, si l'enfant prie, si l'enfant est éveillé, si l'enfant aime, il va recevoir au fond de lui, de l'intérieur même de lui-même, du centre des racines même de son cœur, de sa vie intérieure et de sa vie spirituelle, il va recevoir une présence de Dieu qu'il va ressentir. C'est ce qu'on appelle le don de la loi éternelle et l'apprentissage de la première épreuve. C'est cette expérience qui va faire passer de la phase d'identification et d'indépendance à la phase d'interdépendance. Ça, les psychologues ne le savent pas, ça. Mais je vous le signale. Il y a eu une vocation, vous voyez. Il y a eu un don de Dieu. Il a ressenti un amour qui dépasse complètement l'amour de papa et de maman. Il a ressenti qu'il Il l'a vu, il s'est vu baigner dedans, il a vu toute sa vie future dans cette lumière. Il a dit, mais oui, moi je veux être un saint toute ma vie, moi je veux être sage, je veux être bon, je veux être pur, je veux être généreux, ça dépend, hein. C'est des connotations différentes selon les uns et les autres. Hein. Je veux être Mère Teresa, je veux être... ça dépend. Si on a des causes exemplaires... Hein. Oui. Alors, à cause de ça, l'enfant à l'âge de 7 ans, eh bien... il devient autonome dans l'amour et donc il va pouvoir donner et recevoir. Il est en interdépendance avec son père et sa mère. Il a besoin de son père et sa mère, c'est évident, mais son père et sa mère aussi ont besoin de lui. Il a sa place, il a son rôle, il a sa fécondité. Il va donc faire des actes gratuits, sans que papa et maman l'aient demandé, gratuitement. Il va faire la vaisselle, ce sera dégueulasse la vaisselle, mais ça fait rien. Il l'aura fait avec beaucoup de gratis, hein, en secret, caché, par pur amour, uniquement gratis, uniquement avec un élan d'amour qui dépasse même les potentialités d'amour d'un petit enfant. Il est porté par cette loi éternelle d'amour. Il va obéir intérieurement. Il va faire pour la première fois l'apprentissage de l'obéissance intérieure, spirituelle. Dans un acte de gratuité qui dépasse les limites de la famille et de l'horizon terrestre. Il faut être toujours comme ça. Il veut être un saint, alors hop, il fait quelque chose d'admirable. Il va dire, 140, je vous salue Marie. Je me rappelle, c'était à cet âge-là, j'étais à l'église, et puis j'ai fait 150, je vous salue Marie. C'était super. C'est un peu idiot. Ouais. Mais c'est à cet âge-là, c'est très bien. On peut avoir des déviations. Mais vous voyez, donc c'est gratuit. Cette phase d'interdépendance, vous voyez, on va prier gratuitement, en secret. Je sais pas comment vous dire. Voilà, donc cette phase-là est très commode, la phase d'interdépendance, parce que dans cette phase-là, on peut réparer énormément de choses. Énormément. Notamment par le dialogue parce que les enfants vont confier plus facilement ce qu'ils vivent si on retrouve des gestes, donc des occasions donc de tendresse, de s'asseoir, si on pose des questions, si les parents essayent de formuler ce qu'ils éprouvent. Tiens, t'es en colère. Il faut que les parents essayent de formuler ce qu'ils éprouvent des émotions de l'enfant. Voyez, s'il y a eu des blessures antérieures et qu'il est dans cette phase-là. Tiens, tu as l'air en colère, tu as l'air triste, hein, tu es triste, tu es triste parce que tu veux me dire que tu es triste, parce qu'on s'occupe pas assez de toi, parce que ta sœur t'embête depuis 2 heures. Ouais, taper du pied près de papa, il est là. Qu'est-ce qui t'a... Ah, t'as l'air... Alors, il s'occupe de lui. Alors, oui, on essaie de voir. Tiens, t'as l'air en colère. Ah oui, t'es en colère parce que personne ne s'occupe de toi et parce que ta sœur t'énerve depuis 3 jours, hein, sans arrêter. Hein. Alors, la petite fille, elle vous regarde, puis elle dit, oui. Et puis, elle est plus en colère. Puis elle repart dans sa loi éternelle, son obéissance intérieure. Il y a énormément de choses, vous voyez, qui peuvent se débloquer ici, à ce moment-là. Hein. Être attentif. Voir qu'il y a une perméabilité, une adaptabilité des enfants. Si les parents changent de comportement, ils se remettent en question. L'enfant est mal. Les parents, il faut qu'ils se disent, tiens, il est mal, je vais changer de comportement. J'arrête de travailler. Je pose mon stylo. Je change de comportement. Je m'occupe de lui. Ce que je ne fais pas d'habitude. Savoir remettre en question ces comportements de parents. Et à ce moment-là, les déviations des enfants dans ces périodes-là, de perméabilité, d'adaptabilité,
se font beaucoup plus facilement. C'est très intéressant à savoir. Ensuite, ensuite, il va y avoir la phase de 12-13 ans, on s'approche donc. À cause de cette phase d'interdépendance, si elle se passe bien, eh bien l'enfant se fortifie bien sûr intérieurement et on va, grâce au dialogue, l'encourager ou le conseiller plus exactement, c'est plutôt une phase de conseil, le conseiller, l'orienter vers les sacrifices, vers le sens de la gratuité, vers le sens du sacrifice. Vous savez ça, il faut faire beaucoup de sacrifices, que dit la Sainte Vierge à ses petits-enfants de 7 ans, là, à Fatima. Faire beaucoup de sacrifices. La petite Hyacinthe qui mettait cette ficelle autour de son corps, elle faisait beaucoup de sacrifices pour les pécheurs. Si vous ne l'avez jamais fait, faites-le. Il faut revenir, faut aimer ça. Il faut aimer de faire ces choses qu'un enfant de 7, 8, 9 ans fait pour se fortifier, pour se préparer. C'est ça la première épreuve, pour se fortifier et pour s'habituer à être dans la gratuité de l'amour, pour être dans des actes d'onction, de joie profonde, indéracinable, malgré la contradiction, la souffrance. Donc jusqu'à l'âge de 11 ans, rappelez-vous qu'il y a eu cette phase d'épanouissement, de plénitude de l'enfance, avec une clarté sur ce qu'on veut faire plus tard, et c'est le moment de l'équilibre le plus clair avec Dieu, hein, et qui va disparaître. Hein. C'est vraiment la belle l'embellie, hein, avant de rentrer donc dans la fameuse deuxième épreuve, qui est l'épreuve de l'adolescence, où Dieu va donner, si on s'est fortifié dans cette pli intérieur d'amour, de charité, d'amour gratuit, d'esprit de sacrifice, d'aimer, de donner gratuitement de son sang, de sa vie, eh bien, à ce moment-là, on affronte l'adolescence avec de la force intérieure. Vous voyez, les phases ultérieures, avec toute leur défaillance, se préparent dans la phase antérieure. Un enfant qui a un esprit de sacrifice, qui est rempli d'amour, tout ça, qui a un saint, c'est sûr que sa phase d'adolescence ne posera strictement aucun problème. Il n'y aura pas de crise. Parce qu'on leur a appris, Dieu lui aura appris, cet enfant se sera habitué à vivre de cette gratuité. Pourquoi ? Parce que la loi et l'obéissance intérieure seront habitées en elle. Voyez ? Alors, de 13 à 16 ans, vous le savez, ça c'est tellement connu que j'ai honte d'en parler, c'est un comportement d'opposition systématique, si on est un peu faible. Et puis, de 16 à 18 ans, la demande de soutien parental, de protection, de présence est moindre quand même. C'est une phase de contre-dépendance, d'autant plus violente que la phase de contre-dépendance de l'âge de 2 ans et demi a été très mal vécue par les parents. Donc je vous le rappelle, dans les phases de contre-dépendance, il y a un besoin terrible, viscéral, d'être reconnu. Et donc il faut que je puisse exprimer différemment ce que j'ai découvert de différent. En dehors de la famille, en dehors de... J'aime bien cette musique, mais pourquoi tu aimes bien, qu'est-ce qu'il y a de bien, hein? La techno. C'est super la techno. Pour nous, non, mais pour eux, oui. Alors bon, bah, on a besoin, il faut qu'il y ait un dialogue et qu'elle s'exprime, quoi. Qu'elle dise. Nous, ça nous est étranger. Quand même, la techno, mais c'est diabolique, la techno. Le dialogue avec l'adolescent, pas mal. Hein. C'est diabolique, c'est pas ça. Il y a des messages subliminaux, il y a des... c'est fou, quoi. Tu vas pas rentrer là-dedans. M'en parle pas, il n'y a pas question. Non, l'autre jour, il y a 10 jours, je prenais un type en stop. Puis il avait la queue de cheval. J'ai pris un stop, je devais être à Avignon, quelque chose comme ça. Et puis il était jusqu'à... Je l'ai eu pendant 6 heures, le pauvre. Il n'était pas baptisé, il n'y a rien du tout. Enfin, vous voyez, le jeune, 100% d'aujourd'hui, quoi, hein, à 20 ans. Ouais. 100%, là, vraiment, c'est la caricature, quoi. Vraiment, c'était vraiment la caricature. Ah, j'ai pris mon pied, hein. Ah, vraiment, c'était super. Tiens, on ne peut pas faire plus différent de moi, quoi. Ah, mais je me pose ces questions, je me dis, mais alors, ah bon, mais... Mais qu'est-ce que c'est... Alors il m'a expliqué, c'est pour ça que je vous parle de ça, il m'a expliqué la techno, machin. Je ne me rappelle plus maintenant, mais il y a trois sortes de musique techno. La nouvelle techno dans laquelle on est, c'est super. Et puis c'est la nature, etc. Alors maintenant, il faut... Ah, c'est vraiment génial, ce truc. C'était très, 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 très amusant. Remarquez bien, après, quand je suis rentré dans l'Hermitage...
Vous avez laissé une cassette de techno.
Les villageois du bas, là, sur le lac de Sainte-Croix, avaient fait une grande fête pour en honneur de Saint-Joseph. Ouais, c'était il n'y a pas longtemps. Grande fête. Alors, la statue de Saint-Joseph était sur le lac avec des torches, etc. La nuit, puis après le retour. Moi, j'étais sur les routes, donc je n'ai pas assisté. Et après, il y a eu la messe dans l'église. Le lac de Sainte-Croix, ça devait être magnifique. Et puis, les jeunes, eux, ben, il y avait des jeunes qui étaient venus, qui avaient installé leur baffle sur le bord du lac, je sais pas où. Et puis alors, attention, hein, du décibel, hein, techno. Alors, j'arrive à l'Hermitage, c'était 2h du matin, il y avait techno. Ils ont mis de la techno pendant 40 heures de suite. À 4 km, on entendait alors, boum, 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 boum. Boum boum, là, pendant ce temps, boum 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 boum. Le rythme, c'est extraordinaire. Je pensais à ce type, mais il dit ça, c'est la meilleure. On s'est vraiment retrouvés et on demeure ensemble, tu vois. Il m'avait tellement communiqué ce qui était. Qu'il réveillait ce qui dans la techno, mais dans la musique techno, que du coup j'ai compris. En effet, il y a quelque chose d'assez. Pour nous, c'est intolérable, mais c'est pas mal. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça a le même rythme que le rythme cardiaque d'un enfant embryon. Deux fois plus vite que l'œil cardiaque de l'enfant de 200. Comprenez? Leur détresse. Boum, boum, boum. Alors, ce qui avait incroyable, vous n'allez pas me croire peut-être, mais ça avait d'incroyable. C'est la première fois, hein, je vous affirme, c'est la première fois, ça fait 20 ans que je vis dans les forêts. Hein. Quoi? Non, si je me suis mis à danser, non. C'est que les oiseaux étaient dans les arbres et ils chantaient à hurler, les oiseaux, les rossignols, les machins. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Bon, ça veut peut-être rien dire, mais vous comprenez, il a besoin d'être reconnu. D'ailleurs, il m'a dit, ah ben vous alors ? Ah, il m'a dit, ben, ou toi, je ne sais plus, parce que... Ah ben toi alors, tu... je ne m'en rappelle plus. Tu t'intéresses à hein, ce que je dis là ? Ben je dis, mais ouais, c'est vachement intéressant. Ah ben ça me fait du bien, c'est vachement important, parce que tu t'intéresses, parce que le verset du lien, il l'a dit, hein, il a besoin d'être reconnu. Et puis il a besoin d'être protégé. Il a besoin d'être source de communication d'une émotion dont il sait que ses parents n'ont pas. Vous voyez, c'est plus loin, ça va plus loin que la phase d'enfance de cette enfance épanouie, cette phase d'épanouissement de l'enfance. Parce que là, je communique quelque chose de nouveau que les parents ne connaissent absolument pas. Non, les parents, non, on veut pas de ça. Hein. On ne veut pas. Hein. C'est pas notre truc, ça ne doit pas être ton truc. Hein. Et... Quoi hein. Ouais. Et vous voyez le curé qui est confesseur et qui est bloqué là-dessus. Ça fait un super confesseur. Hein. Oh. Vous voyez. Non, il a besoin d'être protégé aussi. Protéger aussi, c'est une demande de protection. Mais il faut qu'il y ait la reconnaissance. Donc il faut toujours qu'il y ait... C'est de plus en plus difficile, alors oui. C'est une relation de descente. Donc vous voyez que, premièrement, dans cette phase-là, il faut donner un espace à nos adolescents pour exister, pour être. Ok. Il faut éviter absolument de rentrer dans la pédagogie ou la politique du tout ou rien. C'est ça ou c'est rien. Tu nous casses les pieds. T'es en pleine crise, c'est ça ou c'est rien. T'as surtout évité ça. C'est pas tout ou rien. C'est une relation d'échange. C'est oui, pour une part, mais c'est donnant-donnant. C'est oui, pour une part, je prends ce qu'il y a, je prends tout, même ce qui m'intéresse. Mais c'est pas, vous voyez, c'est pas tout ou rien. Mais je prends pas tout. Il y a un petit truc, hein, sur lequel je dois dire non. Pas un gros truc, hein. Mais un petit truc sur lequel je dois dire, tiens, il me semble que là, une petite trouée, 90% vous dites oui, sur 10%, ah. Donc, vous voyez, il faut dire oui pour une part, mais c'est donnant-donnant, c'est une relation. Il a besoin d'être reconnu comme adulte. Sa sexualité commence à former son corps, son psychique et sa soif. Et en même temps, il ne peut pas, il n'est pas reconnu comme adulte, ni lui-même peut se reconnaître comme... Il a besoin d'être reconnu comme adulte. Donc s'il n'est pas reconnu comme adulte, vous voyez bien, alors là, hein, comment la crise d'identité va s'aggraver. Donc il a besoin d'être reconnu comme un petit adulte. Donc on va lui donner la possibilité de discuter, d'être différent. Lui dire c'est très très bien que tu l'exprimes et même on est très très heureux de découvrir ça. Vous voyez? Mais il sait très bien le gosse que notre opinion n'est pas forcément la même sur tout. Mais en même temps il va découvrir qu'on n'avait pas vu grâce à ce dialogue, cet échange, un certain nombre de choses avant qu'il nous en parle. Vous comprenez? On le découvre. Alors, on le dit à l'enfant, on le dit, ben, oui, d'accord, on n'est pas forcément, c'est pas forcément notre truc, on comprend, deuxièmement, on voit, mais on l'exprime nettement, c'est vrai qu'on n'est pas forcément d'accord. Mais tu as parfaitement le droit, c'est ta pensée, elle compte quand même. Il faut que le gosse, il sente que c'est vrai. On n'est pas... C'est pas notre pensée, mais ta pensée, c'est ça. Ça compte quand même. Vous voyez ça? Le rôle du père, là, c'est de se taire. Il se tait. Mais c'est lui qui va aider l'enfant, le fils ou la fille, à parler. Le rôle de la mère, c'est d'écouter d'une oreille distraite. d'être là, de s'enthousiasmer ou de rire. Oh. Vous voyez ? Bon. Bon. Bon, tout ça, c'est pas... Faut désangoisser, hein. C'est sûr qu'il faut désangoisser le problème. Ici, évidemment, au niveau spirituel, Dieu, s'il y a encore la prière, s'il y a encore une prière à faire pour l'adolescent, s'il y a une prière à faire pour l'adolescent en moi qui n'est pas guéri, eh ben, c'est du côté du... Elle se réalise du côté, donc, de l'espérance, de la confiance dans... C'est une confiance très différente, c'est une confiance dans le fait que... C'est la phrase que j'ai fait répéter 3 fois à midi, n'est-ce pas ? La perfection consiste... à s'orienter vers la perfection. Commencer à s'orienter vers la perfection, c'est déjà la perfection. Et c'est... Avoir le désir de la perfection, c'est ça, la perfection. Même si on n'est pas parfait, même si on boite, même si on n'est pas bien, même si on est mal dans sa peau, même si ça grince, même si on se révolte, etc., même si on est en pleine crise, eh bien, il faut spirituellement comprendre que tu serres des dents, tu t'orientes, tu n'as pas la... Ça, c'est sûr qu'il n'y a pas une grande perfection en toi, tu es mal, tu serres des dents, ça passera, parce que ça va venir. C'est Jésus qui complète. Avec les chrétiens, c'est plus facile, parce qu'on se confesse, les adolescents, ils se confessent, ils font des chutes, hein, c'est évident, hein, ils font des chutes. Alors, eh bien, ils se confessent, ils savent qu'ils sont pardonnés, complètement pardonnés, totalement pardonnés, substantiellement pardonnés, que Jésus complète tout ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Alors, ça les met dans une attitude de confiance par rapport à l'avenir. Par rapport à l'avenir, c'est des petits adultes. Ils sont déjà des grands adultes. C'est vrai que la vie spirituelle aide beaucoup l'adolescence. C'est vrai que quand c'est un enfant qui est dans en état de grâce, qui vit des sacrements, pratiquement il n'y a pas de crise. Ça c'est vrai. Mais enfin, si l'enfant, ben, il pratique pas les sacrements, il rencontre pas Jésus qui complète tout ce qu'il n'arrive pas à faire, à ce moment-là, c'est aux parents de faire quelque chose d'équivalent. En disant, mais tu sais, c'est rien, tu serres des dents, la crise, elle va passer, hein. C'est comme tout le monde, oh, faut pas rigoler. C'est rien du tout par rapport à ta sœur aînée, c'est rien du tout. Rien, ça. Ah, tu... sera formidable, et puis faut faire confiance dans la providence, tout, oh là là, voyez, faut redonner confiance. Voilà, bon, bah, par exemple, je sors, l'ado il sort, je sors sortir mes copains, etc. On a techno toute la nuit, tout. Bon, techno toute la nuit. 17 ans, 16 ans. Alors, vous voyez, toujours, dialogue, tu n'es pas d'accord. Moi, je ne suis pas tellement d'accord, mais enfin, bon, c'est ce que... Ah bah si, ça c'est sûr. Bah écoute, ok, très bien, vous dites oui, mais vous mettez une limite. Donc, c'est jamais tout ou rien. Tu dis oui, ok, tu parles avec tes copains, mais tu es là à 10 heures. Quand tu sors, ok, tu sors, mais en surprise partie, je ne sais pas quoi, 15 ans. Déjà 15 ans, surprise partie? Non, mais oh. Hein? Alors, tu dis, ben oui, d'accord, mais à 10 heures, je viens te chercher. Non, mais vous comprenez, ça ne fait rien. L'essentiel, c'est qu'il y ait... L'essentiel, c'est toujours un peu délicat, mais l'essentiel... C'est qu'il y ait, ce soit ni oui ni non. Ce soit ni tout ni rien. C'est ça l'essentiel. C'est ça qu'il faut viser à tout prix. Parce que c'est un besoin de protection. C'est un besoin d'indépendance, de contre-dépendance radicale, viscérale, presque substantielle, parce que le physique est très très impliqué. C'est à ce moment-là que le corps va pouvoir rentrer petit à petit dans l'obéissance intérieure. L'obéissance intérieure de l'enfant, le corps joue aucun rôle, c'est tout intérieur et rend service, etc. Tandis que le corps est rebelle, vous comprenez, le psychisme est rebelle à l'adolescence. Et donc, toute cette épreuve, c'est pour petit à petit faire confiance dans la croissance de l'adulte qui va faire que le corps va intérieurement obéir à cette gratuité dans le don. Et si on passe donc la phase d'adolescence, le corps va finir par obéir et on va pouvoir affronter la troisième épreuve qui est celle donc de l'engagement, de la maturité, qui est une épreuve terrible aussi. Bon. Donc si les parents acceptent cette prise de distance avec des barrières, avec des limites je veux dire, mais souples, très souples, mais des barrières quand même, alors à ce moment-là, l'enfant pourra arriver à une phase, pour la deuxième fois de sa vie, à une phase d'interdépendance vers 18 ans. Il apportera beaucoup à ses parents lui apporteront beaucoup, une phase de communion. Il s'opposera plus systématiquement. Alors, ça amènera donc cette phase de communion qui le préparera à être responsable, et à pouvoir s'engager dans la société, comme on dit, trouver un travail, s'engager, créer un mouvement pour entraîner d'autres, fonder une nouvelle congrégation. Il y a des gens qui fondent comme ça. Bien sûr, il y a eu des fondateurs comme ça dès l'âge de 23, 24 ans. Bon, eh bien écoutez, c'est bien, il est 4 heures. J'ai parlé combien de temps? 1h30 là? On recommence tout à l'heure, à quelle heure? 4h30.